Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le premier roman magnifique de Florian Préclair, Le Cavalier de Saumur, paru récemment aux éditions Actes Sud. Dans le ciel, le vent pétrit la masse blafarde des nuages. Dessous, la plaine est plate et il y a la guerre. Le seul relief dans ce paysage monotone, c'est celui que forme la saillie linéaire de la tranchée, avec le monticule de son talus et le motif épineux de ses barbelés. Les hurlements des blessés sont couverts par le grondement ininterrompu de la canonnade. La lymphe suinte des plaies. Il y a une odeur de brûlé. Les hommes ont dans leur bouche la saveur métallique du sang et sous leur crâne le bruit de martèlement de leur cœur dont les pulsations accélérées tambourinent aux tempes. René Franz est prostré. Il a dans la gorge un cri déchirant qui reste imprononcé. Sa tête est dans ses mains. Ses doigts, noués par la douleur et la rage, semblent des racines tortueuses, grandies autour d'un œuf géant. Au genou gauche, sa chair est marbrée de grenats. Son visage est ruisselant de boue et de sang mêlé, qui transforme les rides de ses pattes d'oie en deux petits estuaires, deux deltas minuscules, où se divisent des fleuves limoneux couleur rouille, pareils à des coulées de lave. Il neige doucement sur René Franz et sur les autres, tandis que depuis là-haut parmi les flocons tombent aussi 10 000 bombes qui explosent comme autant d'étoiles mortes dans le ciel constellé. Les mains de René Franz sont tétanisées. Il sent dans sa chair la brûlure du froid, pareille à la piqûre de centaines d'aiguilles. Et il lui semble que c'est un liquide glacé qui coule dans ses veines sous la peau gercée qui craquelle. Il aimerait tourner le visage ravagé du cadavre à ses pieds pour mieux le voir. Mais il reste longtemps immobile, sans défaire l'entrelac de ses doigts engourdis, et regarde hébété le profil éclaté. L'arête du nez est renversée sur la joue. La mâchoire béante et amputée est ouverte sur des copeaux de dents. Les orbites sont vidées de leurs yeux, les globes mangés une heure plus tôt par des corneilles. Au-dessous, il y a l'arc tendu des côtes, dont reste une moitié, et le grumeau des poumons enrubannés par un coton de neige. Plus bas, c'est le foie et l'énorme araignée rouge de l'abdomen marbré d'écarlate qui, parfois paresseusement, ondule de l'ébullition ébauchée d'un sang mal éteint. Derrière la tête de sa cornée voilée de larmes, René Franz observe longtemps sans comprendre, et puis, comme ça dégage de la vapeur, il réalise que les viscères sont encore tièdes. Alors, il défait difficilement le nœud de ses doigts avant de les plonger dans le ventre violine pour les réchauffer. La veille, c'est dans le chaos de l'aurore déchirée par l'aboi des ordres que René Franz était sorti de la tranchée et qu'il s'était agrippé comme il avait pu pour franchir le parapet de tir, avec la baïonnette en travers de la poitrine et, dans la tête, le souvenir diffus d'un mauvais rêve. Il s'était jeté en avant avec les autres, dans la lumière laiteuse d'un champ de betteraves, devenu à cause des bombardements une étendue grêlée de nids d'obus éclatés ou enfouis. Ça avait été difficile de progresser. La boue ralentissait les pas et empêtrait les hommes, qui avançait avec cet air ridicule de paniquer au ralenti ou d'attaquer par saccades. périodiquement figés comme des enfants qui jouent à 1, 2, 3 soleils dans une cour d'école. Mais il ne jouait pas, et il n'avait pas le teint frais de l'enfance. À force de vivre dans les boyaux, ils étaient noirs comme des mineurs. Avec, sous le voile de la boue anthracite qui maculait leur visage, des cernes violets, et, au-dessus, le vitrail blême de l'œil pour voir en face la mort, et l'aube à l'est. Pendant le combat, René Franz avait vu au loin devant lui des silhouettes envolées par des bombes. Un temps, il était resté médusé au spectacle de l'arc que dessinaient des corps et des poignées de terre échappés à la pesanteur. Puis le reflet d'argent qu'avait fait la lumière sur un casque s'était fiché dans sa pupille et il avait scié. L'espace d'un instant sous sa paupière, il avait alors eu la vision hallucinée d'un corps tranché net par une rafale de mitrailleuse avec son chapelet d'intestins et ses jambes égarées. En plus des images atroces, les détonations des obus assourdissaient les soldats et installaient un silence bourdonnant à la place des voix tonitruantes dont la rumeur était le bruit de fond familier des tranchées. Comme ses yeux, les oreilles de René Franz le trahissaient, et dans la musique sommaire des acouphènes que lui causaient les explosions, il avait cru entendre le trille obstiné d'un oiseau. Celui-là même qui, dans son souvenir, se mêlait à l'odeur d'une peau de femme quand, dans l'été, elle se confond à celle des pommes chues qui fermentent dans la touffeur d'une fin de journée. Et puis l'autre avait été là, avec cette tête pareille à un reflet sur un miroir, parce qu'elle avait ce même air hagard que le sien, avec des traits marqués par la fatigue, des lèvres tombantes et les rides creusées. Passé la surprise de se retrouver si près l'un de l'autre et l'effroi de devoir combattre au corps à corps, ils avaient fait les gestes appris à l'instruction. D'une main, ils avaient saisi leur couteau de combat et de l'autre, ils avaient attrapé la main de l'adversaire qui empoignait la lame. Ils avaient serré si fort leurs poignets que le cran d'arrêt Navarra de la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne et le couteau poignard Deutscher Dolch étaient tombés par terre, et puis de l'épaule, ils avaient poussé de tout leur poids pour se faire chuter. Au sol, ils avaient cherché dans la boue à tâtons une arme, n'importe laquelle des deux, avec au ventre la panique que l'autre put mettre la main dessus avant soi. En même temps qu'ils cherchaient, ils se formaient l'image mentale de leur mort et se figuraient le jour de l'annonce, les yeux embués de larmes de leur sœur, dans des maisons basses et sombres. Après quelques secondes, comme ils ne trouvaient rien, ils avaient rampé pour combler ces maîtres qui les séparaient, et avec leurs pouces, ils avaient appuyé sur des yeux, avec la grappe de leurs doigts, ils avaient supplicié des couilles, de leurs dents, ils avaient mordu des cartilages. Au-dessus d'eux, la pluie d'obus et sa rumeur énorme avaient cessé. C'était maintenant des balles qui passaient, et le cliquetis des mitrailleuses qui leur parvenaient de loin ressemblait à une averse de fin de journée à la belle saison. Alors, René Franz s'était souvenu de quelque chose d'heureux au pied d'un pommier un soir de juillet, et ce souvenir qui remontait malgré lui l'avait distrait le temps suffisant pour que l'autre porte les mains à son cou et commence à serrer. Dans son cerveau, sous l'effet de l'hypoxie qui grandissait, les images s'étaient brouillées, puis quand l'air était venu à manquer presque entièrement, René Franz avait eu un sursaut, et à la lisière de l'inconscience, il avait essayé d'appeler, mais sa voix était restée aussi empêchée que son souffle. Enfin, il avait sombré, et il n'avait pas aperçu passer là-haut le Gotha G3 de 23 mètres d'envergure, ni n'avait entendu le vrombissement du 6-cylindres Mercedes de 260 chevaux. Il n'avait pas vu s'ouvrir la soute à bombes qui avait largué les 14 charges de 10 kilos dont une était tombée tout près et l'avait sauvé en déchiquetant de ses éclats le ventre et la tête de celui qui l'asphyxiait. Il était revenu à lui pendant la nuit sous la clarté épisodique des étoiles. La douleur lui était venue comme une onde, sèchement propagée dans les os, amplifiée dans les fibres de la chair, répandue en secousses à travers le réseau des nerfs, enregistrée dans la moelle et le cerveau. Ça venait d'en bas, la jambe gauche. Il ne pouvait plus bouger. Sa bouche était sèche, avec un goût ferreux à cause du sang bu et de la soif. Comme il n'osait pas la regarder, il s'était fait l'image mentale de sa blessure. Il s'était figuré l'amas d'os et de tendons, les nerfs sectionnés, les éclats d'obus gris terne mêlés au blanc laiteux des cartilages, la rotule fendue en son milieu d'un éclair noirâtre qui ne disparaîtrait jamais. Il avait détaillé tout cela comme l'aurait fait une caméra filmant en gros plan et se déplaçant avec la même lenteur appliquée qu'un regard de médecin légiste. En même temps qu'il se représentait son genou blessé, il hurlait, mais le cri passait difficilement son pharynx. Une déchirure qui aurait voulu s'élever et se résolvait en jappement d'animal supplicié, en miaulement empêché. Quand les étoiles avaient tourné, il avait fini par regarder pour de bon, pour savoir à quoi s'en tenir, et parce que tout cela aurait aussi bien pu n'être qu'un cauchemar, ou qu'il pourrait être passé de l'autre côté, celui des morts, et qu'à tout prendre, s'il était encore vivant, il valait mieux voir les choses en face. Il avait constaté que la blessure était mauvaise. Une boursouflure grouillante de larves beiges qui s'ébattaient, un monceau de chair rubis, un réseau de cloques gonflées de pus. Il voyait aussi le champ de bataille et devinait des reptations de scolopendres parmi l'immense enchevêtrement de boue, de racines et de corps morts. La lumière de l'heure bleue teintait le champ de bataille de nuances de basalte et de cendres.
À voix haute, Meredith Ledez.
Au matin, la neige s'était mise à tomber et l'assaut avait repris. D'autres étaient sortis de la tranchée, franchissant tant bien que mal le parapet de tir et ses sacs de sable amoncelés. Ils avançaient à grand-peine, régulièrement immobilisés en des poses grotesques par le sol qui les prenait. Des bombes neuves avaient éclaté là-haut comme des soleils qui auraient explosé. Il avait entrelacé ses doigts mordus par le froid et saisi sa tête dans ses mains. Juste sous lui, dans la pente du cratère fait par une charge de 10 kilos, Il y avait le visage et le corps déchiquetés d'un soldat allemand. Le ventre fumait. Des chaos, des flashs. René Frantz s'accroche des deux mains à la civière sur laquelle il a été hissé au terme d'un conte à trois temps. Après l'avoir attrapé aux épaules et aux chevilles, les soldats brancardiers ceints de leur uniforme bleu horizon l'avaient brutalement soulevé pour le déposer sur le tissu maculé tendu entre deux tringles métalliques. La douleur au genou avait été vive, ça lui avait lancé jusque dans la moelle. Il avait senti la décharge électrique parcourir le dos et se terminer aux vertèbres cervicales dans un frisson. Maintenant, il faut retraverser le champ en sens inverse, vers l'ouest, et retourner jusqu'à la tranchée. La plaine est recouverte par plusieurs centimètres de neige fraîche. On dirait un grand drap blanc tiré sur le paysage comme un linceul, mais il y a des embûches partout. Sous la couche de neige, l'étendue est piégée par les cratères d'obus traîtreusement dissimulés. On s'arrête souvent, parce que ça explose à deux pas devant soi, qu'une crampe saisit la cuisse ou que pour en avoir le cœur net, on prend le pouls d'un corps inanimé. À cela s'ajoutent les bottes qui s'enfoncent, les trous qui font choir, les mains jaillies de la boue pâle, des silhouettes à demi enfouies agrippent comme elles peuvent les jambes des brancardiers avant de se résoudre à lâcher. À l'approche du boyau, c'est encore plus difficile. Il faut passer les barbelés et le parapet, redescendre dans la tranchée. La civière brinque-balle. René Frantz se met à suer à grosses gouttes, il tremble, il a la nausée. Il sombre à nouveau dans l'inconscience en se grattant les poux. De la tranchée, René Frantz est transféré à l'arrière dans un centre de soins infirmiers. Sur sa fiche d'évacuation, qui est de la couleur bleue réservée aux blessés à opérer d'urgence, il est précisé qu'il a reçu en soins de premier secours une injection de sérum antitétanique et une autre de morphine. Il est garrotté. Le médecin aide-major, formé directement auprès des équipes chirurgicales, passe rapidement pour l'évaluer. En 1917, celui-ci a l'habitude et l'œil sûr. Il estime que la blessure peut guérir et que la marche sera à nouveau possible. Il n'est pas nécessaire d'amputer. On applique la méthode de Carrel. On extrait l'éclat d'obus, on excise toutes les chairs infectées et on lave la plaie avec des injections de liquide d'Aquin. Pendant l'excision, René Frantz ne reçoit pas le nouvel anesthésique de synthèse, la novocaïne d'Einhorn, dont l'emploi est encore rare. En revanche, au cours des jours qui suivent, il continue à recevoir de la morphine. Malgré la réglementation de 1916 qui inscrit l'opioïde au registre spécial pour le tableau B et impose depuis lors aux pharmaciens une délivrance sur prescription, et malgré le retrait officiel en 1917 de la morphine de la pharmacopée de guerre, René Frantz est de ses blessés trop lourdement dosés. Il somnole constamment, il a froid. Il prend l'habitude des tremblements et des nuits trouées au cours desquelles il se réveille 10 ou 20 fois, suant et balbutiant à la limite de la conscience des phrases commencées dans ses rêves. Il s'accoutume à cet état de faiblesse cardiaque constant, cette lenteur du sang dans les veines qui lui donne des vertiges lorsqu'il se redresse pour manger. Les injections durent pendant 2 semaines, au terme desquelles il sait se les pratiquer seul. Après quoi, on le sèvre. Alors, pendant 48 heures, son système nerveux central est sollicité à l'excès. Il libère en trop grande quantité de la noradrénaline et de la dopamine, ce qui lui provoque des crises d'angoisse, de l'hypertension et de l'insomnie. Mais le pire est au 3e jour, quand il s'endort et fait un interminable cauchemar. Il est dans un champ. Il avance difficilement, car sa marche est empêchée par les sillons du labour qui sont profondément creusés. Il pleut et la pluie rend la terre lourde à ses pieds. Malgré ses efforts, il s'enfonce un peu plus à chaque pas. Les semelles de ses brodequins de soldats se chargent de boue. Lorsqu'il baisse les yeux pour les regarder, il constate qu'ils sont abîmés. Les clous qui maintiennent le cuir à la semelle sont rouillés et le cuir lui-même est boursouflé comme couvert de cloques. Ses pieds rougis lui font mal, il les devine gonflés, criblés d'abcès. Il sait comment ça s'appelle, le pied de tranchée. Pourtant, en dépit de cette affection et de son uniforme, il n'est pas là pour faire la guerre. C'est un ouvrier agricole, comme il en aperçoit d'autres dans le champ. Son travail est de récolter des betteraves. Il se penche pour les prendre et les amasser dans un grand sac en toile. Le geste est répétitif et éreintant, mais René Franz éprouve un soulagement profond de ne pas être à la guerre. Il s'applique à fouiller la terre avec ses mains pour en extraire les betteraves qui ressemblent à de très grands radis. Les nervures des fans sont d'un beau rouge purpurin. Mais lorsqu'il ouvre le sac, les tubercules qui sont à l'intérieur se sont métamorphosés en obus. Des shrapnels allemands de 88 mm qui font la taille d'un poing. René Franz sent toute la force de mort contenue dans les bombes et bien qu'il s'immobilise d'effroi, les charges explosent. Les balles de plomb qui sont projetées lui déchirent le ventre auquel instinctivement il porte ses mains pour comprimer les plaies et contenir l'hémorragie. Il y a beaucoup de sang, une grande quantité au niveau du foie et de là 8 lignes rougeoyantes qui s'étendent vers les flancs, 4 de chaque côté. Alors la masse sanguinolente s'anime et au moment où René Franz comprend que c'est une gigantesque araignée vivante, il se réveille. Le cri, imprononcé 3 semaines plus tôt sur le champ de bataille, passe enfin sa gorge. Il hurle à la mort. Il est en nage. Bientôt, la nausée qui lui vient est si forte qu'elle lui coupe le souffle et la parole. Il hoquette, agrippe l'habit blanc de l'infirmière de la Société française de secours aux blessés militaires, vite accourue, qui repose d'un geste doux et ferme la main de René Franz sur le drap. Lorsqu'il sombre à nouveau, c'est, cette fois-ci, pour un sommeil profond et sans rêve. Le matin suivant, on le met debout d'autorité. Après qu'il s'est redressé et s'est assis au bord de son lit, le médecin aide-major commande à 2 infirmiers de l'attraper, de le soulever et de l'épauler. Ainsi maintenu, on lui demande d'essayer de marcher. Non seulement il n'y parvient pas, mais même la jambe valide répond mal. Elle est démusclée par la période d'alitement et l'état faiblesse général de René Franz est tel que sa cuisse droite tremble violemment avant que sa cheville ne se dérobe. Comme le médecin aide-major insiste, les 2 infirmiers avancent de quelques pas tandis que René Franz, impuissant, regarde sous lui traîner ses 2 jambes ballantes et sent ses orteils racler le sol. Les jours d'après, le médecin ne vient plus. Seuls, les 2 infirmiers tirent et traînent le blessé en se cognant aux angles des lits de fer. Pour que ça revienne, il l'exhorte à faire ce qu'il peut. Au moins poser la jambe droite, au moins claudiquer. Au fur et à mesure, effectivement, les muscles se souviennent. Dans la cuisse, le quadriceps et dans le mollet, le triceps sural retissent suffisamment de fibres pour porter le poids du corps. René Franz progresse. On remplace 1 des infirmiers par une béquille, puis les 2. Dès lors qu'il est mobile, on le renvoie chez lui avec la paire de béquilles en pin qui lui blesse les dessous de bras. René Franz se tient droit face au miroir. Il regarde son allure devant la glace. La barbe hirsute, la chemise mal boutonnée, la stature d'homme avec sa blessure misérable, les 2 bouts de bois blanc sous les épaules, la cicatrice violacée en forme de crochet dont la couleur peu à peu brunira, virant aux prunes puis tirant sur le noir. Il lâche les béquilles et s'efforce de faire porter l'appui sur ses 2 jambes. Il s'applique. Il se tient d'abord à cloche-pied sur sa jambe valide, puis pose les orteils du pied gauche sur le plancher. Alors, il sent d'un coup le figement électrique d'une résille de nerfs qui se révolte, mais pour tenir, il mord dans sa bouche un bout de cuir imaginaire et déroule quand même lentement toute la voûte plantaire jusqu'au talon. Il sent perler une goutte de sueur à son front strié par des rides que la contraction de l'effort creuse profondément. Malgré tout, ça ne fonctionne pas. Il ne parvient pas à se tenir immobile sur ses deux pieds sans chanceler et rebascule brusquement tout le poids sur la jambe droite pour ne pas tomber. Parfois, il essaie de se projeter en avant pour faire un pas, espérant que le corps, par un mouvement réflexe, se souviendra et que cette mémoire sera plus vive que la douleur. Dans ces cas-là, il regrette la seringue de Pravaz, dont l'aiguille creuse rend l'usage tellement facile qu'on peut s'injecter soi-même la solution de chlorhydrate de morphine. Après avoir lâché ses béquilles et s'être tenu un temps en équilibre sur sa jambe droite, il engage ses épaules vers l'avant, mais lorsqu'il porte l'appui sur sa jambe gauche, le genou le lance si fort que son pied se dérobe et à tous les coups, il chute. Après ça, étendu au sol sur le dos, agité de spasmes nerveux, il rêve qu'il met le feu à son état de service dactylographié par le ministère des Armées, dont la rubrique « Action d'éclat et citation » porte l'ordre du régiment numéro 159 daté de 1917, qui dit qu'il a un moral élevé, énergique, qu'il est souvent prêt à s'employer aux missions dangereuses et qu'il a été grièvement blessé avec gloire. Alors le feu se propage et se transforme en un incendie gigantesque. Il voit des flammes courir dans les forêts et sur les plaines, gagner les herbes folles sur les sentiers côtiers, dénicher des animaux terrés, calciner des étendues de bruyères mauves. Dans sa vision, le monde entier brûle. Depuis l'Europe, l'incendie s'étend vers le nord, gagne des toundras sauvages aux tigres disparus et consume à l'Orient des presqu'îles rougeoyantes sur lesquelles s'allume la torche d'un phare. Par-delà les détroits, dans des flammèches que le vent porte au-dessus des mers, l'incendie gagne les lichens des îles du Groenland et vient lécher des glaciers noircis, des neiges sur lesquelles retombe un grand nuage de cendres. Au sud, dans une Australie qu'il ne verra jamais, le feu dessine un anneau au centre de braises ardentes qui va s'épanchant vers les côtes, à l'est le long du Pacifique et de ses coraux blanchis, à l'ouest sur l'océan Indien. Étendu là, sur le plancher, il reste un peu plus qu'il ne devrait, tandis que la map-monde imaginaire qu'il contemple au plafond déploie sur toutes les terres connues sa vision pyromane. C'était « Le cavalier de Saumur », un roman magnifique de Florian Préclair, paru aux éditions Actes Sud en 2023. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical l'ouverture de l'ode à Sainte-Cécile de Purcell sous la direction d'Alfred Deller. Quant à moi, je vous souhaite un agréable samedi soir et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle lecture à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.